Bonjour, nous arrivons au jour 7 de notre défi 10-30, le septième jour. Et nous arrivons au verset 12 de Matthieu chapitre 6, dans une portion absolument essentielle de cette prière qui peut faire vraiment la différence, non seulement pour vous, mais pour votre famille, pour toute l'atmosphère de votre famille, pour votre mariage, votre couple, pour vos enfants. L'absence de cette prière ou l'absence de recherche dans cette prière et d'accomplissement et d'exaucement dans cette prière affecte des familles pour des générations, de génération en génération, affecte des églises et peut affecter des mouvements d'églises entiers. Lorsque Jésus a répondu aux cris de ses disciples qui ont dit « Seigneur, enseigne-nous comment prier », il leur a dit « Vous allez prier au Père, vous allez prier pour ses plans et pour ses priorités et ses projets, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous allez prier pour votre pain, le pain de sa provision. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Mais vous allez aussi prier. Voici comment vous devriez prier. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Une prière de quotidienne de repentance que nous allons toucher un peu plus tard dans la prière, mais une prière pour le pardon. Une prière de repentance et de relâchement. Une prière face à nos péchés, mais une prière de pardon. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Jésus lui-même a prononcé ces mots qui ont changé l'histoire du monde. Crucifié à la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce sont 10 mots qui ont changé l'histoire du monde. Vous pouvez consulter notre site Internet, le site Internet de l'Église Nouvelle Vie, et vous allez trouver plusieurs séries de messages assez approfondis sur le pardon, avec toute une plus grande profondeur de l'ensemble de l'enseignement biblique. Ce n'est pas notre format ici aujourd'hui, mais c'est simplement de vous permettre de considérer que vous ne pouvez pas avoir une vie de prière saine, vous ne pouvez pas avoir une vie chrétienne saine sans que ça fasse partie de votre flot de vie de prière devant Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui font des prières de supplication, d'intercession, de prières d'autorité, des prières pour la guérison, des prières pour le salut des âmes, mais qui ne prient pas sincèrement, Seigneur, pardonne-moi comme je pardonne, parce qu'il y a quelque part eu un arrêt de leur recherche de pardonner, de leur désir même de pardonner. Alors nous avons besoin pour prier avec autorité, avec compréhension, Seigneur, fais que je puisse pardonner comme je pardonne à ceux qui nous ont offensés, à ceux qui m'ont offensé. Nous avons besoin de comprendre ce que le pardon n'est pas. Je crois vraiment qu'une des raisons pour lesquelles certaines personnes ont de grandes réticences, qu'il y a un silence sur cet aspect de la recherche de Dieu. Ils peuvent prier pour bien des choses, mais ne prient pas pour une puissance pour plus pardonner. C'est parce qu'ils ont adopté, ils ont été enseignés de faux concepts sur le pardon. C'est important de comprendre ce que le pardon est pour prier, Seigneur, comme je pardonne, donne-moi la puissance de pardonner, mais aussi ce que le pardon n'est pas. Le pardon biblique n'est pas approuvé, excuser ou justifier le mal qui nous a été fait. Pardonner, ce n'est pas de couvrir, ce n'est pas d'abrier, ce n'est pas de cacher le mal qui nous a été fait. Des églises ont donné un faux portrait du pardon en exemplifiant, en donnant l'exemple, en vivant comme si le pardon, si on n'en parle plus, il ne s'est rien passé. Le pardon, ce n'est pas de justifier le mal qui nous a été fait, ce n'est pas de permettre au mal de continuer. Quelle horreur dans les églises évangéliques qu'une femme qui se fait abuser ou qui se fait violenter par son mari et on lui dit bien pardonne-lui et ça permet, et ce supposé pardon permet au mal de continuer. Le pardon n'est jamais pour permettre que le mal continue. N'est pas de prétendre qu'il ne s'est rien passé. Le pardon n'est pas le déni. Le pardon n'est pas l'attente que quelqu'un d'autre vous demande pardon. Le pardon biblique n'est pas, je ne prie pas Seigneur comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. S'il me demande pardon, je verrai si... Non. Vous êtes responsable de votre relation avec Dieu. De votre relation avec Dieu. Vous ne pouvez pas être responsable de la décision de l'autre, mais vous êtes responsable de votre relation avec Dieu. Le pardon biblique n'est pas oublié ou effacé de notre mémoire. Ce n'est pas un cliché, ce n'est pas instantané, ce n'est pas une lobotomie chrétienne. Il y a des douleurs, il y a des blessures, des choses que nous relâchons, que nous choisissons de relâcher et de pardonner, qui nous font souffrir encore. Et le processus de guérison va se faire avec l'aide de Dieu, l'amour de Dieu, la paix de Dieu, la grâce de Dieu. Mais le vrai pardon n'est pas non plus la cessation ou disparition immédiate et instantanée de la douleur, ou n'est pas un événement unique et ponctuel. Ce n'est pas quelque chose que j'ai fait une fois je t'ai pardonné. Non, c'est exactement ce que Pierre a demandé. Combien de fois, jusqu'à quand devrais-je? Et il y a toute une dimension au pardon, ce qu'on va regarder dans quelques instants, ce que le pardon est. Et, le pardon n'est pas un exercice superficiel et froid où rien ne change dans vos actions. J'ai rencontré comme pasteur au fil des ans des gens qui disaient « Oui, oui, je t'ai pardonné, mais il y a la même froideur, les mêmes actions, la même médisance, la même calomnie, la même dureté implacable envers l'autre personne. Vous connaîtrez un arbre à ses fruits. » Et la personne qui pardonne va y avoir un changement dans ses attitudes et ses comportements. Ce n'est pas le pardon, la négligence de la justice. Et c'est que parce que quelqu'un a pardonné, ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des conséquences à ses actions. Ce n'est pas l'obligation immédiate et inhumaine, automatique, de faire confiance. Il y a eu adultère, il y a eu déchirement, il y a eu ta trahison, il y a eu un chrétien, une chrétienne peut être appelé à pardonner, à relâcher la personne. Mais la personne qui a offensé ne peut pas exiger une confiance instantanée. Le vrai pardon n'est pas la réconciliation systématique et obligatoire. Parfois, le pardon va nous permettre de rétablir la relation. Et parfois, il y a la personne qui ne veut pas être rétablie avec nous, la personne qui est nocive pour nous, la personne qui nous détruit, la personne qui nous fait du mal, que nous devrons pardonner sans que la restauration de la relation telle qu'elle était puisse prendre place. Le vrai pardon biblique, c'est un relâchement parce que nous réalisons la puissance destructive du non-pardon. La pensée est puissante, mais elle est vraie. Relâche-le et c'est toi qui sera libéré. Relâche la personne par le pardon. Je prie à chaque jour, je ne suis pas prophète, mais il y a une prophétie qui est garantie de s'accomplir. Je vous prophétise que dans la prochaine année, et peut-être dans le prochain mois, une chose qui est garantie d'arriver, c'est que vous allez être offensé. Vous allez recevoir une offense, vous allez avoir besoin de pardonner quelqu'un. Et l'autre promesse qui est garantie, l'autre prophétie garantie, c'est que vous allez blesser quelqu'un, et même sans le vouloir. Il y a quelqu'un qui va être blessé par vous, à qui vous allez avoir à demander pardon et qui va avoir à vous pardonner. Nous pardonnons parce que nous relâchons, parce que nous réalisons la puissance destructrice du non-pardon. Jésus, la connaissant, a dit, vous allez faire de cela une partie intégrale de votre vie de prière à chaque jour. Je vous promets devant Dieu que ça fait partie de ma vie de prière. À chaque jour, je ne veux pas avoir rien envers qui que ce soit. Et Seigneur, je te demande de me donner maintenant la puissance, comme je pardonne. Et Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu va amener à vos cœurs des personnes et la réalité et la vie va amener à des personnes. Je vous avoue candidement que parfois, le pardon est facile. La personne ne voulait pas faire du mal. Je la relâche. Et parfois, ça m'a pris des semaines et des mois. Des situations, des abus qui ont demeuré, des trahisons, des actions contre nous qui nous ont fait tellement mal. Mais je refuse de laisser le non-pardon être en moi. Le non-pardon, c'est de boire du poison et de penser que ça va faire du mal à l'autre personne. Je ne te pardonne pas et c'est toi qui portes le poison. Le Proverbe 18-19 nous dit « Des personnes offensées sont inapprochables. Ils sont inatteignables, comme une ville fortifiée. Leur amertume et leur querelle sont comme les verrous d'un donjon qui sont littéralement emprisonnés. » Et moi, j'ai vu ça au fil des années tellement de fois. J'ai vu des églises, des chrétiens, des familles, des couples être littéralement fermés. Il n'y a rien qui les atteint. Il n'y a plus rien. L'Évangile qu'ils connaissent intellectuellement, qu'ils connaissent même dans la compréhension de la théologie et de la doctrine chrétienne, ne semble ne porter aucun fruit réel en eux, aucune vitalité, parce qu'ils sont derrière les murs et derrière les barreaux de leurs cellules d'offense. Le vrai pardon, c'est avec la révélation de ce à quoi l'amertume nous réduit. Dernier verset pour on continue sur le pardon demain. Mais dans le dernier verset se trouve, il y a un portrait hallucinant dans Éphésiens chapitre 4. L'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, dans les versets précédents, le combat spirituel contre tout ce qui est diabolique et démoniaque, dira, si vous vous mettez en colère, versets 26 à 32 de Éphésiens 4, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. N'attristez pas le Saint-Esprit. Que toute amertume et animosité et colère disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, vous pardonnant comme Dieu vous a pardonné en Christ. Il reprend littéralement les mots de l'enseignement de Jésus dans le Notre Père. Je pardonne comme j'ai été pardonné. Je pardonne, Seigneur, je te demande pardon je pardonne comme tu m'as pardonné. Et l'apôtre Paul donne un portrait ici qui est assez intense. Et j'aimerais que vous y portiez une attention particulière parce qu'il peut restaurer votre vie, sauver votre vie, guérir votre passé spirituel et il peut protéger votre avenir. L'apôtre Paul a un portrait tellement clair, tellement lucide et limpide et puissant, révélateur de ce qui arrive à quelqu'un qui refuse de pardonner. Il dit, si vous refusez de pardonner, il y a deux choses qui prennent place. La première, c'est que littéralement, vous donnez accès au diable. Lorsqu'on parle, on pense à donner accès au diable, on pense à une cérémonie vaudou à quelque part, dans un pays lointain. On n'a pas cette pensée, cette réalisation, cette compréhension du monde spirituel que vous pouvez avoir un beau chrétien bien blanchi, assis dans l'église, qui chante les cantiques et qui connaît tous les versets, qui prophétise. Et s'il a de l'amertume dans son cœur, il a donné accès à l'ennemi. Et en donnant accès à l'ennemi, il donne accès au mensonge, à l'amertume, qui ouvre la porte à tout ce que l'ennemi peut venir. Et en temps normal, lorsque nos cœurs sont libres de l'amertume et que l'ennemi vient nous mentir, nous tourmenter avec des mensonges, quelle est notre ressource? Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Mais Paul dit dans Éphésiens 4 qu'il y a deux choses qui arrivent à celui qui refuse ou celle qui refuse de pardonner. Le leader, le chrétien, l'Église, la personne. Elle donne accès à l'ennemi, elle est sous l'emprise de l'ennemi, elle est bombardée de mensonges et l'ennemi qui vient pour tuer, égorger et détruire. Et en plus, elle attriste l'esprit. Elle ferme l'accès au consolateur, à celui qui vient donner la vérité, à celui qui est rempli de joie, le fruit de l'esprit qui est paix, joie, amour, bonté, alors c'est une position dans laquelle j'ai vu tellement de chrétiens, tellement d'églises, tellement de chrétiens de longue date, et qui paralyse le mouvement, l'œuvre de Dieu en francophonie, qui derrière nos murs d'amertume et de refus de pardonner, l'accès à l'ennemi est sans limite, et l'accès de l'esprit à nos vies. Nous attristons l'esprit et nous donnons un accès illimité à l'ennemi dans nos vies. Alors j'aimerais que vous puissiez aujourd'hui prendre cette prière personnellement, regarder à votre cœur et dire, Seigneur, est-ce qu'il y a quelqu'un que je dois relâcher? Est-ce que je dois relâcher? Est-ce que je dois pardonner? Répands en moi, Seigneur, la connaissance et la capacité de fermer la porte à l'ennemi et à ses mensonges et de donner un plein accès aux fruits, à l'action et aux dons du Saint-Esprit dans ma vie. Faites-le aujourd'hui, mais faites-le à chaque jour de votre vie. Je rêve avec vous aujourd'hui d'un monde, d'une église chrétienne où chaque croyant, chaque leader, chaque pasteur ne permet pas à la blessure, si réelle soit-elle, de demeurer en lui, relâche et vit le renouvellement qui ferme la porte à l'ennemi et qui renouvelle l'action du Saint-Esprit. Seigneur, que chaque personne qui entend et voit ce message puisse fermer la porte à l'ennemi et ouvrir tout grand leur cœur et leur vie à l'action surnaturelle du Saint-Esprit en priant « Pardonne-moi mes offenses comme nous pardonnons, comme nous relâchons à ceux qui nous ont offensés. Relâchez-les aujourd'hui et c'est vous qui serez libérés. » Bonne journée et à demain.